Cultura 94.3 FM vous amène à un voyage au tropique. En vous pressant les week-ends tropicaux, son, salsa, cumbia, reggaeton, romántica, vallenato y rock en español. ¡Que comience la fiesta!
Bonjour et bienvenue à Question de savoir. Mon nom est Marie-Ève Duchesne et je suis attachée aux communications pour l'Allier. Avec moi aujourd'hui, Karine Denis, VP études et recherches de l'Allier et Claude Junior Charles, VP droit étudiant de l'Allier. Bonjour. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, qui dit rentrée dit aussi début des cours aux études supérieures et encadrement et plan de collaboration. Donc, ce sera notre sujet du jour. Je vais commencer par vous demander qu'est-ce que c'est l'encadrement et en quoi consiste une bonne relation d'encadrement pour les étudiants qui nous écoutent.
Bien, un bon encadrement, c'est... En fait, l'encadrement, en général, qu'est-ce que c'est? C'est le suivi auquel tous les étudiants ont droit tout au long de leurs études, peu importe le type de programme. Donc, une forme d'encadrement qui se fait aussi avec les maîtrises professionnelles, mais aussi avec, évidemment, tous les programmes de recherche, comme la maîtrise de recherche, le doctorat, etc. Dans le fond, c'est vraiment ça, le suivi et le soutien qui est nécessaire pour réussir ces études. C'est ce qu'on entend par encadrement. C'est sûr que concrètement, ça se réalise d'une façon différente selon le programme dans lequel on est.
Si on donne un exemple, par exemple, vous, dans votre programme, comment se passe l'encadrement?
Bien, je ne sais pas pour Claude, mais en maîtrise de recherche, comme je suis, on est affilié avec un directeur ou une directrice de recherche, donc une direction de recherche. Je pense que c'est la formule la plus répandue aux études supérieures. Puis c'est une personne, c'est une ressource qui nous accompagne, qui nous soutient, qui apporte un suivi, en fait, tout au long de notre projet de recherche, que ce soit de l'élaboration de la question de recherche et de la problématique, jusqu'à la remise du dépôt initial du mémoire ou de la thèse.
Oui, bien, je vais surtout abonder dans le même sens que ma collègue, par rapport, premièrement, à la définition donc, de l'encadrement, parce qu'il ne faut pas oublier que l'article 1er, alinéa 7 et de la Déclaration des droits étudiants, donc fait savoir que l'étudiant, normalement, donc, a le droit, OK, donc, de connaître de façon précise, en plus des exigences de son programme de formation, un ensemble de possibilités d'encadrement offertes et les ressources disponibles à cette fin. Et c'est comme, quelque part, une sorte de responsabilité de l'université, donc, de s'assurer que l'étudiant a toutes les ressources disponibles pour pouvoir réussir son cursus universitaire. Comment est l'encadrement, par exemple, pour moi-même qui est en maîtrise en droit des affaires? Donc, c'est comme une sorte d'entente convenue entre l'étudiant et sa direction de programme, ou du moins, c'est sa direction de recherche. Mm-hmm. Et c'est dans cette entente-là qui a été convenue entre nous autres. Donc, j'ai mes devoirs, j'ai mes responsabilités, tout comme la direction de recherche a ses devoirs et ses responsabilités. Donc, en gros, c'est ça.
Puis, en quoi consisterait une bonne relation d'encadrement selon vous au cycle supérieur?
En fait, une bonne relation d'encadrement, c'est la relation avec laquelle tu t'es entendu avec ta direction de recherche. Donc, l'important, c'est une bonne communication. Donc, c'est important d'exprimer le plus rapidement possible ses besoins, le soutien qu'on attend de la direction de recherche, puis de définir les rôles et les responsabilités de tous les acteurs. Donc, il faut bien comprendre qui fait quoi, quand, à quelle fréquence, créer ensemble un échéancier, etc. Parce que ça pose les bases pour une bonne relation tout au long du programme d'études.
Ouais, effectivement. Donc, une bonne relation, c'est parce que ben, vous allez voir que je suis un peu accro donc au principe juridique, c'est que j'ai toujours appris que les conventions légalement formées tiennent le lieu de loi entre les parties. C'est-à-dire, si je me suis entendu avec ma direction de programme ou mon directeur de recherche sur quelque chose, c'est-à-dire un échéancier des travaux, etc., etc., c'est-à-dire moi, j'ai le devoir, j'ai l'obligation morale de respecter cet échéancier-là. Et le directeur de programme, aussi, ou du moins la direction de recherche, a également cette obligation. Et dans la mesure où je respecte les principes préalablement établis et mon directeur respecte les principes préalablement établis, déjà, on est parti donc, sur une bonne base. Donc, c'est ça la relation. On respecte les attentes, on respecte tout ça. Et là, je pense que ça, là, c'est une bonne relation donc, d'encadrement.
Puis à ce moment-là, si par exemple la direction de programme ou la direction de recherche ne respecte pas ces engagements, vous avez plusieurs possibilités de recours, plusieurs choses à faire qu'on va vous parler un petit peu plus tard dans l'émission. Je voudrais vous entendre parler du plan de collaboration. Qu'est-ce que c'est?
C'est mon outil préféré.
Puis à quoi ça sert, ce plan de collaboration-là, pour les étudiants et étudiantes aussi supérieures?
Bon, le plan de collaboration, comme je l'ai brièvement mentionné, c'est vraiment mon outil préféré parce que c'est un outil essentiel pour les études supérieures qui est beaucoup plus pertinent lorsqu'on fait des programmes de recherche, c'est certain, parce que les maîtrises professionnelles, par exemple, j'y reviens encore, mais les maîtrises professionnelles, en fait, ont déjà une forme d'encadrement et de suivi préétabli. Donc, sont généralement très bien encadrés. Les échéanciers du programme sont très clairs. Il y a une équipe qui suit les étudiants constamment. En recherche, on est beaucoup plus autonome, on est beaucoup plus aussi laissé à nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une entente. Et c'est ça, le plan de collaboration, c'est une entente, c'est un outil, justement, pour définir la collaboration entre la direction de recherche et l'étudiant ou l'étudiante. Donc, dans le plan de collaboration, on retrouve tous les éléments qui seraient nécessaires ou pertinents d'aborder, justement, pour partir sur une bonne base. Donc, ça peut être de la définition du projet de recherche jusqu'aux ressources matérielles qui sont nécessaires pour réaliser cette recherche-là, le soutien administratif qui va être nécessaire, le soutien financier aussi, s'il y en a. C'est le temps, dans l'élaboration du plan de collaboration, de parler justement du financement qui est disponible, des opportunités aussi, comme est-ce que c'est possible d'être auxiliaire d'enseignement ou auxiliaire de recherche pendant la collaboration? Est-ce que c'est possible aussi d'avoir accès à un fonds de recherche, à avoir accès à des bourses? Si oui, quelles sont les ententes que je dois respecter comme étudiant pour y avoir accès? Est-ce que je dois publier des articles? Est-ce que je dois participer à des congrès? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Quelle est ma responsabilité? En fait, ce genre d'éléments-là, c'est important que ça se retrouve dans le plan de collaboration. Il y a d'autres choses aussi, par exemple l'échéancier. C'est important de discuter justement de la fréquence, justement à quelle fréquence je suis supposée remettre des pages, combien, quelles sont nos dates de rencontre prévues. J'attends aussi un retour de ma direction. À quel moment? Si j'envoie un courriel, est-ce que je m'attends à avoir une réponse d'ici 2 semaines, d'ici 3 semaines, 1 mois? C'est important de définir ce genre de détails. Donc, tout ça et plus, selon les étudiants et les étudiantes, tout ça peut se retrouver dans le plan de collaboration.
Effectivement, donc je ne voudrais pas faire des audits parce que ma collègue a presque tout dit, mais sinon que j'ai eu une petite discussion donc avec quelques amis et dans cette discussion là donc il est toujours revenu que il n'y a pas vraiment une grande différence entre l'encadrement et le plan de collaboration, du moins le plan d'encadrement et le plan de collaboration. Peut-être qu'en amont on peut dire que l'encadrement c'est qui définit le cadre dans lequel on doit se trouver, mais au fil des temps, on va avoir besoin donc du plan de collaboration. Mm-hmm. Et c'est ce plan de collaboration-là qui est cette entente entre la direction de recherche de l'étudiant et l'étudiant, donc qui peut se définir en plusieurs points. Premièrement, donc, il faut définir les étapes du parcours. Deuxièmement, il faut définir les attentes et, par rapport au parcours et également donc, les attentes de la direction de programme. Et comme ma collègue l'a dit, donc, ce plan de collaboration doit contenir donc, quelques points. Donc, premièrement, donc, on a, par exemple, le projet de recherche. C'est quoi? On doit définir le choix du sujet de recherche, les dispositions particulières si votre recherche est subventionnée, également la propriété intellectuelle et éthique de la recherche avec des sujets humains. Et normalement, donc, on doit nécessairement attendre quelque chose de vous en tant qu'étudiant. Et par exemple, l'échéancier des étapes importantes des études. Par exemple, moi-même, avec mon directeur d'essai, donc, on a défini un échéancier des travaux. C'est comme je lui ai dit, ben bon, à partir du début du mois de septembre, je vais lui envoyer donc la thématique. OK? Donc, et à partir de telle date, je vais lui envoyer ben, la bibliographie, une bibliographie temporaire. Parce que je dois quand même, mais préalablement, faire certaines recherches. Je lui communique tout ça. Ensuite, et je vais lui envoyer, donc c'est comme mon projet de recherche. Après, je lui soumets et genre une première phase et de un projet donc et de ce que j'ai déjà écrit, jusqu'à ce que donc je lui envoie donc la version définitive de mon travail. Et aussi, il y a les attentes envers la direction de recherche qui peuvent être premièrement, donc les tâches, et le format et la fréquence de vos échanges avec votre direction, peut-être les dispositions en cas d'absence prolongée et ensuite les délais normaux de rétroaction. En gros, c'est ça qui doit se trouver donc, dans un plan de collaboration. C'est ça.
Puis, oui, c'est important vous... de mentionner aussi, Karine, je vais te laisser finir. C'est aussi important de mentionner qu'on a fait une campagne l'année dernière concernant le plan d'encadrement. Si tu veux, tu peux poursuivre là-dessus. Qu'est-ce qu'on voulait exactement comme revendication, l'allier?
Ah, ben,
on voulait plusieurs choses.
Oui. Ben, c'est pour ça que c'était toute une campagne. En fait, on voulait que le plan de collaboration ou le plan d'encadrement soit une pratique répandue sur le campus, donc que toutes les facultés s'y soumettent. C'est chose faite parce que ça a été adopté au conseil facultaire. Donc, les nouveaux étudiants et étudiantes vont pouvoir bénéficier d'un plan de collaboration cette année. J'invite aussi tous les étudiants qui reviennent à élaborer un plan de collaboration parce que c'est vraiment un outil qui aide. En fait, vous et moi savez que la vie, elle est pleine de surprises et d'imprévus. Ouais. Donc, c'est possible qu'il y ait des délais. C'est possible qu'il y ait quelque chose qui se passe qui fasse qu'on ne puisse pas respecter notre échéancier. Ça arrive. On est humain, après tout.
Mais oui. Errare humanum est, on dit toujours, l'erreur est humaine. Là, on est dans un studio. Peut-être il est environ 11h41 bonnes minutes. On ne sait pas ce qui va se passer à 11h42 bonnes minutes. Donc, du coup, il est toujours bon donc, d'anticiper, il est toujours bon de prévoir.
Oui, et c'est pour ça qu'en fait, c'est important de réviser le plan de collaboration à chaque année, parce qu'il y a peut-être des nouveautés qui sont survenues, peut-être des imprévus, fait que c'est de revoir ces échéanciers. Puis ça permet de faire un bilan, un retour sur l'année, de voir si c'était réaliste ou pas. Mais d'autres revendications que nous avions durant notre campagne l'année dernière, c'est justement que l'université institutionnalise le suivi du plan de collaboration. Parce que c'est bien beau d'avoir établi un plan de collaboration avec sa direction. Il faut quand même qu'il y ait une forme de suivi qui soit faite. Ça peut être un comité d'encadrement, parce qu'on sait que ce n'est pas dans tous les départements qu'il y en a, des comités d'encadrement. Puis même dans les départements où il y en a, ce n'est pas toujours au point, on ne sait pas toujours quand est-ce qu'ils interviennent ou pas. Donc,
comment ça fonctionne aussi des fois.
Oui, c'est ça. Donc, de clarifier, en fait, les ressources qui sont disponibles, d'assurer qu'il y ait une personne responsable du plan de collaboration et de son respect aussi. Mm-hmm. D'assurer aussi que les professeurs qui dirigent les étudiants, donc les directions de recherche, soient au courant des bonnes pratiques d'encadrement. À ce sujet, il existe déjà une formation offerte par la FESP, donc la Faculté des études supérieures et postdoctorales, qui est disponible pour les professeurs pour justement présenter les bonnes pratiques d'encadrement. Est-ce que cette formation-là est présentée aux professeurs? Est-ce que c'est diffusé à travers les canaux de la faculté? à travers les canaux universitaires? On ne sait pas. On peut se poser la question. Donc, les informations sont déjà là. Les outils sont déjà là. Par contre, il y a des problèmes de communication. Un autre exemple, le Centre d'aide aux étudiants a sur son site web une belle section dans Appui à la réussite, une belle section dédiée aux étudiants de deuxième et troisième cycle. Là-dedans, il y a deux pages dédiées à l'encadrement. Est-ce qu'on en parle de ces pages-là? Pas vraiment. Est-ce qu'on y réfère? Difficilement. Est-ce que c'est facile à trouver? Il faut savoir où elles sont.
Mais si vous avez manqué des informations sur l'encadrement ou si vous avez des questions sur l'encadrement, je vous invite fortement à visiter le allier.ulaval.ca. On a une section qui est dédiée à l'encadrement dans la section info académique. Et là, je vais nous envoyer en musique pour prendre une petite pause pour nous tous. Et on va vous revenir, on va écouter La Maison Jaune de Claude Pelgag à l'instant sur Chiz 94.3 FM. Ça marche? bonjour et re-bienvenue à Question de savoir. Toujours Marie-Ève Duchesne sur les ondes de Chiz 94.3, aussi disponible en balado-diffusion. Je suis toujours avec mes collègues pour parler d'encadrement et de plans de collaboration. Et là, j'ai besoin de votre aide. Je suis une étudiante au cycle supérieur et j'ai un problème d'encadrement avec ma direction de programme pour ma maîtrise. C'est pas mon cas. Je le précise.
C'est un cas hypothétique.
Ouais. Cas hypothétique. Qu'est-ce que je fais?
Bon, il faut d'abord savoir qu'il y a des étapes à respecter. C'est pas le temps d'envoyer un courriel de panique au doyen de sa faculté ou à la rectrice. En fait, il y a des acteurs qui peuvent vous aider. Donc, il faut d'abord... Si on a une difficulté avec sa direction de recherche, la prochaine ressource, c'est évidemment la direction de programme. Donc, c'est une personne qui est là pour justement outiller le plus possible l'étudiant et l'étudiante afin que vous puissiez réussir vos études dans les temps impartis, selon les modalités de diplomation, etc. Donc, s'il y a des conflits d'encadrement, ça peut arriver, c'est la première personne qui devrait le savoir. C'est sûr qu'on est un peu mal pris si sa propre direction de recherche, c'est aussi la direction de programme, parce que ça ne règle pas vraiment le problème. Une autre ressource rendue là, ça peut être sa direction de département, ou bien il existe aussi d'autres personnes, comme si on a une co-direction, on peut se référer à cette personne-là. Si on possède un comité d'encadrement, on peut s'y référer aussi, parce que ce sont d'autres ressources qui existent pour favoriser l'encadrement. Dans le cas où on n'en a pas, parce que je suis le premier exemple de ne pas en avoir. c'est ça. Donc, dans le cas où on n'en a pas, à qui on peut s'adresser? Outre la direction du département, bien, vous avez tous et toutes un vice-doyen ou une vice-doyenne aux études ou bien un doyen ou une doyenne de votre faculté. Cette personne-là est en charge de s'assurer du bon fonctionnement de la faculté. Donc, ça peut être une autre bonne ressource à qui parler. Évidemment, si le conflit... et, disons, tenace ou difficile à résoudre et qu'on n'arrive pas à vous répondre de façon satisfaisante, c'est possible de s'adresser à des personnes externes à votre faculté. Donc, la FESP, c'est là où elle embarque, en fait. C'est son rôle pour trancher sur des décisions par rapport à des conflits, pour régler des tensions. Donc, on s'adresse au vice-doyen de la FESP, M. Simard, ou à Mme Bastien, la doyenne. Dans le cas où on a l'impression que nos droits sont brimés et que la FESP ne répond pas non plus à nos attentes, ne règle pas le conflit, ne règle pas le problème, là, c'est possible d'aller consulter l'Ombudsman
de l'Université Laval.
Oui, parce que c'est un organisme, c'est une entité indépendante, en fait. Qui est neutre, tout à fait. Donc, cette personne-là va peut-être pouvoir régler le problème.
Puis, est-ce que à l'allié, il existe quelqu'un qui peut nous donner un coup de main en cas de problématique d'encadrement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire de l'accompagnement, par exemple, pour les étudiants et étudiantes au cycle supérieur qui seraient avec des problèmes d'encadrement ou des problèmes de droits étudiants?
Marie, je dois te dire que c'est une question d'une extrême importance et à laquelle je vais prendre le plaisir de répondre. Normalement, il faut se dire que dans toute relation, donc il se peut qu'il y ait donc des problèmes de relations, d'encadrement, etc., etc. Et dans le cas où il y a ce genre de problème, donc il y a l'Allié, qui est l'association des étudiantes et des étudiants donc de Laval inscrits aux études supérieures, donc qu'on peut contacter. Et c'est la raison pour laquelle on a une personne ressource, donc son nom est bien Nadège Meyer-Joissin, donc elle est l'agente au droit étudiant au niveau de l'Allié. Donc je vais essayer de dire que comme ma collègue l'a dit, donc quand on est face à une situation préjudiciable, et donc ce n'est pas le moment donc qui est pour paniquer, donc il faut juste écrire, donc il faut juste envoyer un mail donc à l'agent étudiant donc à cette boîte courriel là aide.droit@commercialallier.ulaval.ca. Ne vous présentez pas sur les lieux, surtout on est en temps de Covid, donc c'est mieux d'envoyer donc de prendre rendez-vous, donc comme ça donc on va vous répondre dans le meilleur des délais. Donc c'est ça.
Exactement. Puis lorsque vous envoyez un courriel à Nadège, c'est bien important de mentionner votre cycle d'études aussi, votre programme, puis si vous voulez lui faire un petit résumé de ce qui se passe dans cette problématique de relation d'encadrement ou problématique étudiante-là. Puis on va pouvoir se faire un plaisir de vous donner un coup de main. Puis aussi, si jamais on a des problèmes d'encadrement, on peut aussi écrire à Karine, qui est notre vice-présidente aux études et à la recherche aussi.
Oui, excellent. Mon adresse courriel, c'est études au pluriel à commercial allier.ulaval.ca.
Parce qu'il y a quand même une collaboration entre nos deux, entre nos trois personnes, donc entre Karine, Nadège et Claude Junior. Donc, ces trois personnes-là, si jamais vous avez des problématiques, c'est sûr, ça tente qu'aller vers Nadège. Mais si jamais vous avez des choses que vous voulez qui soient revendiquées par l'allié, vous pouvez contacter mes deux collègues de l'exécutif. Ils vont se faire vraiment un plaisir de vous donner un coup de main là-dessus. Et c'est ce qui mettrait fin à la question de savoir pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été parmi nous. De 14h à 16h aujourd'hui et demain, il y a la distribution des agendas des cycles supérieurs de l'Allier. Donc, si jamais vous avez envie d'avoir l'agenda gratuitement des cycles supérieurs, il est très bon. Venez le chercher de 14h à 16h devant les bureaux de la maison Marie-Sirois, la petite maison en face du Desjardins. Vous ne devriez pas nous manquer. Aussi, de 10h à 16h, ce jeudi, on va en faire. Donc, vous allez pouvoir venir nous rencontrer et venir parler avec l'exécutif. On vous conseille fortement de mettre votre masque pour venir chercher
L'agenda.
Et de respecter aussi les petits X au sol pour la distanciation sociale. Donc, sinon, si jamais vous êtes dans les facultés d'aménagement, d'art, design et d'architecture, ou encore de théologie, de droit, ou de sciences de l'éducation, ou de sciences de l'administration, c'est le temps de participer au concours NEO. Vous pourriez remporter 400$ de bourse de participation si vous êtes notre personne choisie pour votre faculté. Tous les détails sont sur notre site web de l'Allier.
Donc, Allier. À ne pas manquer.
À ne pas manquer. Donc, si jamais vous voulez voir à quoi ressemble ce concours, vous allez pouvoir le voir sur le site de l'Allier et sur notre chaîne YouTube. À noter aussi qu'il y a une conférence sur l'alimentation qui est disponible sur la chaire publique. Une conférence avec Bernard Lavallée, entre autres. Sinon, vous allez recevoir dans les prochains jours votre avis de convocation pour l'Assemblée générale annuelle de l'Allier le 16 septembre prochain de 17h30 à 21h30 au Grand Salon. C'est l'occasion de vous faire entendre sur notre plan d'action qu'on va vous envoyer par courriel avec tous les documents pour l'Assemblée générale. Et aussi, ne manquez pas, question de savoir la semaine prochaine, même heure, même poste, pour la présentation du comité exécutif de l'Allier 2020-2021. Donc, vous allez pouvoir entendre parler nos exécutants sur leur projet de l'année. Et on espère que vous avez aimé cette émission. Donc, on vous revient à la prochaine. Cette émission est aussi disponible en balado-diffusion. Bonne fin de journée.
À la prochaine!
À la prochaine!
Pourquoi? J'ai un petit...
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Ta session universitaire se passe peut-être encore en direct de ta cuisine. Mais la Fête de la musique de Québec, elle, a décidé de revenir en force les 5 et 6 septembre en chair et en os. Après une édition virtuelle à succès au début de l'été, c'est 30 groupes de la scène locale qui vont se partager les trois scènes installées tout au long de la rue Saint-Jean. Amène ton masque, ta bonne humeur et viens assister à l'un des seuls festivals de la saison.
Faites toujours la même cassette. T'es déjà drunk avant le 5 à 7. Le répit de Damoclès plane au-dessus de ma tête.
Écoute locale avec Chiz 94.3.